On fait cette rencontre autour de Georges Navelle que moi j'ai rencontré grâce à Florence et Bernard qui m'ont en premier parlé de cet auteur. On a suivi, on était assez heureux de voir que Gallimard chez Folio avait fait une sélection d'extraits à 2 euros, ce qui permettait de diffuser aussi cet auteur. Et puis cette année, un petit concours de circonstances avec les éditions de L'Échappée qui ont décidé de rééditer le texte Passage qui n'était plus publié. Gallimard a suivi en rééditant Parcours. On n'avait pas préparé ça. Et Près des abeilles, qui est un extrait de.
C'est pas ça.
Qui est un extrait de Chacun son royaume. Je vous fais grâce de la bibliographie complète de Georges Navelle, mais c'est que Travaux, qui a été publié en 1945, est son ouvrage le plus connu. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé Passage. Et pour rester dans l'actualité littéraire, enfin, ce qui fait que cette année était particulièrement propice à faire quelque chose autour de Georges Navelle, Claire Navelle, sa fille, avec Camille Estienne, qui ont fait un travail éditorial autour d'un récit inédit qui vient d'être publié aux éditions Plein Champ, donc un texte sur lequel elles ont beaucoup travaillé, car Claire Navelle a dit que c'était vraiment encore une étape de travail dans les papiers qui ont été retrouvés. Donc un inédit qu'on n'a pas encore lu parce qu'on l'a reçu il n'y a pas très longtemps, mais c'était l'occasion de rencontrer les éditions Plein Champ. Je finis donc en remerciant Jacques Beaujard des éditions de L'Échappée et de la librairie Quilombo, Edouard Thomas, pour Plein Champ, Gisèle Escure, Claire Navelle, Frédéric Calmette et Laurent Demanze, qui s'est prêté au jeu, qui ne connaissait pas Georges Navelle. Je lui ai dit, Laurent, est-ce qu'on fait un truc autour de Georges Navelle? Il a dit oui. Tu es professeur des universités, spécialiste, heureusement que c'est pas moi qui parle, de littérature française contemporaine. Tu as publié plusieurs ouvrages chez Corti que je n'ai pas réussi à lire, notamment Un nouvel âge de l'enquête, portrait de l'écrivain contemporain en enquêteur. J'ai eu la chance d'entendre Laurent justement sur une de ses spécialités, sur justement ces écrivains contemporains qui font du récit et de l'enquête. Et c'est donc lui qui travaille ce soir, et c'est bien, parce que moi, je n'ai pas de voix.
Ah, bon, mais je ne sais pas si je dois te remercier, Thaïssa, du coup, de l'invitation piégée. Mais en tout cas, je dois te remercier de m'avoir permis de découvrir l'œuvre de Georges Navelle, que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi, puisque, comme Thaïs me le disait, il a terminé sa vie tout près d'ici, et toute une partie de ses dernières années ont été occupées du goût pour les lavandes et du goût pour les abeilles, au point que le titre d'un texte tiré d'un de ses livres, c'est Près des abeilles, préfacé par Jean Giono. Je voudrais commencer juste par vous dire qu'on va essayer de faire des parcours et des lectures. Il ne s'agit pas de commenter ou pas de faire une histoire de la vie de Georges Navelle, mais de trouver des petits points de repère, puis faire entendre cette langue qui est vraiment une langue magnifique. Et je voudrais commencer par les mots d'ouverture du romancier Sylvain Prudhomme pour la réédition de Parcours. Il faut lire Georges Navelle, je n'ose écrire qu'il faut le relire, car qui l'a lu ? Qui aujourd'hui sait la beauté de ses livres, admirés à l'époque par Giono et bien d'autres ? Il est des trous de mémoire collectif dont on se réjouit presque après coup pour ce qu'il prépare de redécouvertes heureuses. Il faut lire Georges Navelle. Donc vous entendez à quel point il y a une sorte d'écart entre un succès, quelqu'un qui a été reconnu par ses pairs, préfacé par Jean Giono, et puis un oubli jusqu'à ce que ces rééditions récentes viennent à nouveau le faire connaître. Il faut dire que c'est une œuvre qui est une œuvre rare, qui comporte à peine 5 textes de 45 à 82, de Travaux en 45 à Passage en 82, donc une œuvre rare, resserrée, comme les doigts de la main, 5 textes à peine, qui explique aussi que c'est une œuvre qui va être extrêmement discrète. Pour beaucoup de raisons, on va essayer de déplier ça, mais parce qu'elle est à l'écart des écoles, notamment à l'écart de l'école prolétarienne, parce que c'est une œuvre qui n'est pas romanesque, parce que c'est une œuvre qui n'est pas tout à fait autobiographique. Il parle de lui, il parle de ses travaux, mais il ne rentre pas dans les atermoiements des sentiments, dans les facilités des difficultés familiales. C'est quelque chose qui se place très haut dans la manière de saisir le travail, le monde du travail, les plaisirs et les peines du monde du travail, et qui ne se laisse pas aller aux confidences. Et donc, ni autobiographie, Jean Giono le disait bien, ni autobiographie tout à fait, ni roman à l'écart des modes, à l'écart de Paris surtout. Il y avait tout pour que cet auteur, en quelque sorte, devienne discret, c'est ce qui a eu lieu, mais... En même temps, on le reverra, c'est un auteur qui a été fortement reconnu. Je voudrais essayer de donner quelques cadres, quelques balises. Il est né en 1904 et il est mort en 1993. Vous voyez qu'il a parcouru en quelque sorte tout le XXe siècle. Et que ce passage d'un bout à l'autre du XXe siècle, c'est aussi un passage de la grisaille du Nord à la lumière du Sud. Et de la ville, avec cette dimension industrielle, ses usines, avec les champs, les cueillettes, etc. Donc c'est un grand passage, et un passage tiraillé en permanence, entre le sentiment des damnés de la terre avec le travail à l'usine, et au contraire, des moments qui sont des moments heureux, malgré la fatigue, de contact avec le sol, de contact avec les fruits en permanence. Toujours dans ces quelques jalons, c'est le 13e et dernier fils de ses parents, hein, cinq enfants morts à la naissance. Au moment où il naît, sa mère est déjà très âgée, son père continue à travailler à plus de 70 ans, et lui commence à travailler à 12 ans. Donc vous voyez, c'est un monde qui est un monde du travail très long, hein, on commence très jeune et on continue jusque très long dans l'existence. Un critique, Bruno Curatolo, qui faisait la revue de Georges Navelle, qui essayait de remettre en honneur Georges Navelle, disait qu'en quelque sorte, le monde de Georges Navelle est entre deux époques, qui est celui de la grande industrie et celui de la paysannerie. C'est-à-dire qu'on côtoie à la fois la terre de Zola et Germinal, hein, ces deux mondes. Et que ce qu'on voit progressivement, c'est le monde de la paysannerie être attiré par les villes. Et ce qui est intéressant chez Georges Navelle, c'est qu'il va s'arracher progressivement à cette attraction des villes pour retourner du côté d'un goût de la terre, du côté d'un goût des cultures qui ne sont pas plus paisibles, très loin de là, mais en tout cas qui lui permet d'avoir un contact avec le sol, un contact avec l'air beaucoup plus euphorique, beaucoup plus heureux que dans le monde de l'usine. On reviendra dans une citation. Ce qui est important dans ce parcours, c'est que un de ses frères aînés, donc un des très nombreux frères aînés de Georges Navelle, l'a ouvert à la culture ouvrière et en particulier à une grande conscience politique qui est à la fois une conscience politique communiste et anarchiste. Alors, il y a un fond communiste qui est chez Georges Navelle, mais on le considère davantage comme un écrivain libertaire que comme un écrivain communiste. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il ne s'est pas rattaché à ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, hein, qui est plus cristallisée autour du communisme, et aussi parce que Georges Navelle ne cessera d'osciller entre l'usine et les champs. Et donc cette oscillation, cette tension l'amène en tout cas à être à distance, en tout cas ne pas être rattaché à la littérature prolétarienne. Donc à 15 ans, il découvre avec une grande admiration tous ces textes de lutte, tous ces textes qui sont des textes de recherche de liberté, d'émancipation, émancipation à la fois individuelle et collective. Et on verra dans quelques extraits qu'on va lire, c'est que sans doute c'est un des intérêts de Georges Navelle. C'est quelqu'un qui à la fois est très soucieux du monde collectif, des solidarités, des fraternités. Dès qu'il y a un collectif, il va essayer de lui porter secours, de l'accompagner. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est désireux toujours de son individualité, de sa liberté individuelle. Et en quelque sorte, il est aussi toujours entre, on dirait, un souci d'un communisme collectif et d'un anarchisme un peu plus individuel. Il est entre les deux.
C'est dans cette rencontre, ou en tout cas dans cet apprentissage avec le frère aîné, qu'il va découvrir à Paris, en 1922, donc Navelle a 18 ans, les ressources de la bibliothèque Sainte-Geneviève, où il va devenir un lecteur assidu, qui ne va pas cesser d'être. Et quand on lit Georges Navelle, on est en quelque sorte en permanence un livre à la main et une faux dans l'autre. Hein, c'est-à-dire que les moments de pause, les moments de repli, les moments où la fatigue laisse le corps s'allonger, mais aussi se détendre, il a toujours l'esprit en éveil, et cet esprit en éveil va être en permanence adossé à des lectures qui vont l'accompagner. Alors, je cite un passage, les Jean-Christophe, hein, Jean-Christophe, c'est un grand roman fleuve du début du XXe siècle, les Jean-Christophe me renflouaient de poésie. Mais c'est aussi un très grand lecteur, on y reviendra, un très grand lecteur de Nietzsche, qui, philosophe allemand de la deuxième moitié du XIXe siècle, est un philosophe qui fait l'éloge de la vie, du vitalisme, de l'énergie, on y reviendra, et de quelque chose qui est d'un élan qu'il va rencontrer en permanence. Alors je voudrais peut-être commencer par une première lecture, puis après Christophe, simplement pour dans Travaux, pour dire cette manière presque facétieuse qu'il y a d'avoir un engagement communiste ou révolutionnaire qui relève davantage d'un goût de l'amitié plutôt qu'un goût d'être encarté par des idéologies politiques. Il est dans un chantier de terrassement notamment. Et il s'entend très bien avec le chef de chantier. Félicien est flatté, le chantier est d'importance. Nous sommes une douzaine de compagnons. L'appartement est grandiose. Pour faire bien dans le récit, avec les peintres qu'il rencontre, Félicien va jusqu'à exagérer le nombre des pièces et des salles de bain. C'est près du bois pour un grand banquier étranger. Il dirige le chantier paternellement. Nous sommes une douzaine de compagnons embauchés au syndicat, des anciens copains de travail. Un bon esprit règne, peu de courbettes. Le peintre qui chante continue sa chanson quand les gommeux, notre patron, arrivent. C'est-à-dire les clients, hein, les gommeux, avec les cheveux gominés. Ou quand un groupe parfumé et aristocratique, clients, visiteurs, passe dans le chantier. Le chantier est vivant, des plombiers, des briqueteurs, des parqueteurs, des gars du bâtiment. Sur les plâtres, j'ai dessiné une belle faucille et un marteau. Les visiteurs passent sans rien dire. Félicien passe à son tour et pour ne pas faire de la peine au beau monde, efface notre signe de ralliement. Peut-être, Christophe, pour dire aussi l'art du portrait, parce que on y reviendra, Georges Navelle, c'est un écrivain des travaux, mais c'est un écrivain qui brosse des portraits. Alors des portraits chaleureux, des portraits amicaux, mais aussi quelques portraits satiriques et avec un don de la pointe qui est extrêmement savoureux.
Au matin, je suis descendu du coteau en grappillant du raisin acide aux vignes frêles. C'était donc tout ça l'Éden enfantin. J'ai pris un premier train, attendu la correspondance, et maintenant le train démarre pour Paris. Je m'y trouve ahuri de n'avoir plus à marcher pour avancer et d'être arraché soudain au pays qui, la veille, jouait avec moi. J'ai quand même le sens hiérarchique. Le wagon de première m'intimide. La rupture avec la poussière du chemin est trop brusque. Me voilà jeté dans le confort avec un tapis sous les pieds. Je ne suis pas à l'aise comme le serait un bohémien. Et très vite, je me passe les doigts dans les cheveux pour paraître correct. Je suis tout de même entré dans un compartiment de gentleman, après avoir traversé un nuage de distinction, heurté les pieds de l'armée, un sous-lieutenant parfumé, pour m'asseoir à la gauche d'un personnage rond qui paraît représenter l'industrie ou la banque. Les gentlemen ignorent mon arrivée, comme j'ignore apparemment leur présence. Me voilà soudain assis dans un groupe d'armoires à glace. Ma présence offusque le décor. Mon coude gauche prend soin de ne pas heurter le coude droit de l'industrie. Est-il français ? Est-il allemand ? C'est le personnage important du compartiment. Je ne devine pas. C'est aussi difficile que de connaître la nationalité d'un coffre-fort sans marque d'origine. Il a des lunettes. Si j'en crois l'importance qui le gonfle, Il a sous la main la police, le téléphone, une armée d'ouvriers, des valets d'usine. Sur un carnet qu'il a sorti, il inscrit quelques chiffres avec son stylo-mine. Je suis assis près du veau d'or. En fait, il est plutôt rond et court comme un petit goré. Rien de la bonne humeur des marchands de cochons américains. Une tension à suer pour paraître respectable, imposant, distingué. Un bébé cadom au visage rond et triste d'ange comptable.
Vous avez entendu le goût ironique, le goût de la satire, la caricature qu'il arrive à faire, et puis avec un humour, mais aussi un sens tout à la fois de la distance sociale et de la provocation que suscite sa présence. On sent dans cette ironie une colère aussi envers le monde des puissants, qui est une colère qui donne beaucoup d'énergie au texte de Navel. Alors le premier texte que va faire paraître Navel, c'est Travaux, qui est publié en 1945 sur le conseil d'amis qui, le voyant écrire, le conseille de le faire paraître. C'est un texte qui va rencontrer un très grand succès. On l'a oublié, mais il a failli avoir le Goncourt. Le premier tirage a été épuisé en quelques semaines et on en a fait plusieurs tirages immédiatement après. Alors, Travaux, donc le premier texte, alors que Navel a 41 ans, il faut le redire, hein, c'est donc quelqu'un qui a toujours baigné dans la littérature, malgré ses travaux dans les champs et en usine, mais il publie tardivement, à 41 ans. Et c'est un texte qui est un texte qui, on pourrait le décrire davantage comme des chroniques, c'est-à-dire des saisies partielles de chantiers, de lieux de travaux, d'espaces où il va donner de son corps et de son énergie pour rencontrer des ouvriers, des compagnons, des copains, pour reprendre les formules que vous avez entendues tout à l'heure dans ma lecture. Et d'ailleurs, les titres même sont tout à fait indicatifs, En faisant les foins, Solitude, Les terrassiers, Peinture en bâtiment, Jardin de Nice. On a en quelque sorte un portrait de l'ensemble des métiers qui étaient possibles au milieu du XXe siècle, avec une incroyable variété dans les gestes accomplis par Georges Navel, par les travaux occupés par Georges Navel. Je ne vais pas tous les citer, mais manœuvre, ajusteur, terrassier, ouvrier agricole, apiculteur, correcteur d'imprimerie à partir de 1954, etc. Il y a quelque chose qui est tout à fait saisissant, c'est que Georges Navel ne reste pas dans un lieu pour travailler. On pourrait dire que c'est un nomade du travail. Et pour ainsi dire, c'est ça qui est très étonnant, c'est que ça produit une écriture qui est autant une écriture du voyage qu'une écriture du travail. Et quelqu'un qui va en permanence chercher un autre travail, par lassitude, par ennui, par désir de se rafraîchir le corps, par désir de découvrir de nouveaux horizons. Et en quelque sorte, il y a une instabilité foncière, et l'idée de s'installer durant longtemps va être contraire à cet individu qui est en quelque sorte pris par une énergie du mouvement. Et pour illustrer cette question d'une sorte de nomadisme, une sorte d'écriture qui est une écriture toujours en mouvement, à la recherche d'un autre travail, ce qu'on pourrait appeler la chasse au travail, deuxième extrait, lu par Christophe.
Il y a 6 mois que je n'ai dormi dans un lit. J'ai bourlingué tout l'été. J'ai vu de nouvelles choses et refait malgré moi connaissance avec des anciennes. Dormir ou manger, j'ai vécu à terre. Le travail m'a conduit ici et là. J'ai suivi sa piste. D'anciennes pistes et de nouvelles pistes. Le gibier du travail est rare. Va-t-il se dérober à présent? En plaine, j'ai cueilli le tilleul. En montagne, retourné le foin. Des bricoles qui n'ont rien rapporté. Dans la haute montagne, j'ai fait du terrassement. Dans les basses Alpes, la récolte de la lavande, celle du sel, au salin d'hier. J'ai fait de mon mieux en traquant la bête du travail pour épargner sur ma chasse. Je me suis nourri le plus économiquement qu'il est possible, sans user du restaurant ni de l'hôtel. J'avais sur moi l'hôtel-restaurant, mon havresac, la marmite, la tente et les couvertures. Je n'ai pas suivi le caprice, mais le gibier du travail. Pour l'automne, j'aurais voulu être en Espagne. Il fallait quelques avances pour m'y rendre. Là-bas, sans doute, j'aurais trouvé à m'employer à la récolte des oranges, vers Valencia. L'année a été pluvieuse. Les journaux ont signalé des inondations. Je suis arrivé au salin d'hier à l'époque où normalement commence la récolte. La direction des salins a estimé qu'il fallait attendre, qu'un temps plus favorable permettrait une récolte plus abondante. 15 jours, un mois d'attente sur lesquels je ne comptais pas. Au début, j'étais noyé par l'inquiétude. J'ai cherché du travail ailleurs, il n'y en avait pas. Les vendanges aussi commenceraient avec un sérieux retard. Quoi faire d'autre ? L'attente était douce. J'ai fixé mon campement sous les pins, près de la plage. Il a fait beau. Une chaude lumière règne sous le sous-bois et sur les étangs. J'ai chassé la nourriture dans les arbres. Dans les pins parasols, il y a des pommes de pin. J'ai cassé les pignons entre deux pierres pour en extraire les amandes menues. Il y faut une patience d'ange et il est bon de procéder en série. Il faut grimper aux arbres, trouver un arbre accessible, s'écorcher et se défendre des temps avec une branche de feuillage. J'ai fait aussi la pêche aux crabes dans les canaux des marais, mais malgré toutes ces chasses, il a fallu entrer tout de même dans les boutiques d'hier pour acheter le lard et les spaghettis. Il n'est plus rien resté de l'argent gagné à la lavande quand le sel a commencé. Sans le vouloir, j'ai pris un mois de vacances. Un mois d'oubli à demi nu, les livres, les lettres, les bains, le temps a coulé.
Donc, vous voyez cette itinérance toujours à la recherche d'un travail, c'est aussi une itinérance qui est une exploration des horizons, une exploration des pays, une exploration d'un rapport qui est un rapport très intime à la nature, qui dit deux choses. D'abord que le travail tel qu'il est décrit dans l'ensemble des livres de Georges Navelle, c'est un travail qui ne rémunère jamais complètement. C'est-à-dire que même en travaillant, il arrive très rarement à payer à la fois le logis et la nourriture. C'est-à-dire à peine le logis et la nourriture. Donc il arrive très régulièrement dans les textes de Georges Navelle qui disent qu'il dort à la Belle Étoile pour économiser des salaires qui lui sont proposés. Donc il y a vraiment une dureté de la condition du travail qui impose aussi ou qui compose pour Georges Navelle une manière qui est une manière d'être heureux malgré les conditions, hein, malgré la dureté. C'est une sorte de fatalisme ou d'amour fatie, d'amour de la fatalité chez Georges Navelle, malgré les conditions, parce qu'il y a très rarement des moments qui sont des moments de plainte. Vous voyez, là, il est dans l'attente entre deux travaux, son salaire est en train de se réduire comme peau de chagrin, et néanmoins, il se saisit cette occasion pour un mois de vacances. À chasser les crabes et à profiter d'être à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. C'est quelque chose de très étonnant, se dire que vraiment le travail ne permet pas ni de se loger ni de manger. Le deuxième point, c'est que c'est un travail qui est un travail toujours oscillant en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'au moment des moissons, on est dehors. Une fois que les moissons sont finies, on rentre à la ville et on retourne à l'usine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de frontière fixe entre le monde de la ville et le monde de la campagne, le monde de l'usine et le monde des champs. Il y a une sorte de balancement, une sorte de balancier qui va régulièrement de l'un à l'autre. Et évidemment, lorsque Navelle est contraint d'aller à l'usine, ce sont des moments qui sont des moments plus durs, plus pénibles, parce qu'il a un rapport au travail qui est un rapport contrasté. Autant il peut faire l'éloge de la fatigue des champs, de cette ivresse de la fatigue qu'avait bien lu Thaïs en ouverture, autant le travail de l'usine est un travail qu'il va décrire comme étant déshumanisant. Le travail de l'usine, c'est la mécanisation, c'est le bruit, c'est le travail à la chaîne et évidemment la grisaille, hein, qu'on se représente moins puisque ce sont vraiment des lieux urbains qui sont des lieux noyés de fumée et qui donnent à la ville, aux villes, la description de Lyon est tout à fait singulière dans Travaux, hein, aux villes une impression d'espace qui est un espace brouillardeux, noyé dans le fog et ça à cause des usines. Alors évidemment la description que fait Navelle des usines, c'est une description qui fait écho avec beaucoup de descriptions qu'on a en tête, les temps modernes de Chaplin, c'est aussi la description qu'on voit dans Voyage au bout de la nuit de Céline, où on devient en quelque sorte un rouage dans cette grande mécanique, et je trouve que Navelle saisit ça avec une grande force encore.
On parvenait à une vitesse de geste étonnante. Ouvrir un tiroir, l'explorer, en retirer un outil, repousser un tiroir ne prenait qu'un instant. On était déjà à occuper une perceuse. On agissait comme dans les films fous, où les images se suivent à une vitesse extrême. On gagnait du temps. On le perdait à attendre la meule, la perceuse, le pont roulant. Ces trous dans l'organisation d'une usine qui passait pour fonctionner à l'américaine, c'était de la fatigue pour nous. Plus encore que l'insistance des chefs, l'énorme tam-tam des machines accélérait nos gestes, tendait notre volonté d'être rapide. Le cœur essayait de s'accorder à la vitesse des claquements de courroies. Dehors, l'usine me suivait. Elle m'était entrée dedans. Dans mes rêves, j'étais machine. Toute la Terre n'était qu'une immense usine. Je tournais avec un engrenage.
Vous entendez cette sorte de fatalité de la vitesse, cette nécessité d'être toujours au rythme de l'usine. Et surtout, le point qui est sans doute le plus intéressant dans l'analyse que fait Navelle, c'est l'idée qu'on intériorise l'usine. C'est pas parce qu'on arrête le travail à l'usine qu'on est dans un moment de détente. Au contraire, on a véritablement le fracas de l'usine, l'odeur de l'usine, les gestes rapides de l'usine qui sont entrés en nous et qui vont nous accompagner jusque dans le sommeil. C'est exactement ce qu'on voit dans les temps modernes où une fois que le travail à la chaîne s'arrête, Chaplin continue à avoir les gestes. Et bien là, c'est cette idée-là que le travail nous déforme de manière intérieure. Alors, beaucoup d'historiens du travail se sont attachés à saisir l'œuvre de Navelle parce que c'est une œuvre qui décrit avec une grande précision tous les gestes du travail. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est quelqu'un, comme je le disais, qui a occupé une multitude, une myriade de métiers différents. Et donc, avec une même personnalité, une même manière d'écrire, on a en quelque sorte un nuancier ou un spectre qui est très grand. Au point que quelqu'un comme George Friedman va se servir des textes de Navelle pour documenter ce qu'il en est du travail au XXe siècle, parce qu'il y a chez Navelle un sens de la description des gestes du travail qui est un sens très, très précis. Et ce qui est extrêmement important dans ce sens de la description, c'est qu'il y a pour Navelle un grand orgueil dans les gestes du travail industriel, du travail artisanal, du travail paysan. Il y a pour lui quelque chose qui relève d'une très grande dignité de ces gestes-là, qui sont à égalité des grandes activités intellectuelles, philosophiques qu'il a par ailleurs. Il met ça exactement sur le même plan et il emploie très souvent une expression qui revient de nombreuses reprises dans son œuvre, c'est l'intelligence ouvrière. L'intelligence ouvrière, c'est l'intelligence des ouvriers, des ouvriers en lutte, des ouvriers syndiqués, des ouvriers dans une collectivité, mais c'est l'intelligence des moments où on est dans l'ouvrage. Et il y a de la part de Navelle quelque chose qui est vraiment un éloge du geste, parce que le geste du travail nous permet d'être attentif au monde, de pouvoir être présent quelque chose à ce qui est autour de nous. Et je voudrais citer un passage qui est un peu l'envers du moment d'usine. Le moment d'usine, c'est le moment de la mécanisation du geste. Là, ça va être le moment de l'attention. J'ai pris deux paragraphes pour que vous soyez attentifs au fait qu'il y a chez Navelle quelque chose comme toujours un éloge, presque une manière de hisser le travailleur comme un héros, mais sans trop en faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit sourire en coin, un petit moment d'ironie où Navelle va renverser l'héroïsme et va souligner que quand même c'est très prosaïque aussi. Ce sont des héros, mais des héros faillibles, des héros, vous allez voir, qui sentent mauvais. C'est la lavande, la faux. D'ordinaire à la lavande, les coupeurs travaillent à la tâche. C'est une raison de s'appliquer à se rendre habile au jeu de ses mains, à manier avec légèreté la faucille autant qu'à saisir les poignées des pics coupés. Aussi, même quand on se tire très bien de ce travail, qu'on a le style d'un bon coupeur, on s'aperçoit que l'attention ne cesse pas de s'y donner, que la perfection est un infini dont on est toujours éloigné. On tire sans cesse de ces gestes des sortes d'épreuves que l'attention s'applique à corriger pour les rendre plus parfaits, plus souples, plus efficaces. Les mains, les jambes deviennent instruments au service de l'attention, mais qu'on pourrait aussi appeler l'intelligence ouvrière. Si l'on se sent vivre, si l'on s'observe en travaillant, on s'aperçoit qu'elle habite chaque mouvement, qu'elle est présence constante, que c'est elle qui tient vraiment compagnie au lavandeur qui coupe les épis. Sans elle, sans cette attention, tout serait fastidieux et longues les heures au soleil, dans la sueur, dans la rocaille, à flanc de montagne. Style, perfection, attention, vous voyez, le geste du travail est un geste, pour ainsi dire, artistique. Deuxième paragraphe, après cette héroïsation, il faut quand même un peu retomber sur terre. Ce n'est pas beau un coupeur de lavande. Ça sue, c'est mal rasé, ça porte sur le dos, pendant que ça avance presque à quatre pattes, un ballot qui le fait ressembler à un escargot, et ça avance avec deux pattes arrière et deux pattes avant, dont une avec sa faucille de sauterelle tond toutes les fleurs en avant. Tout type courbé, chargé, c'est un insecte. Alors, une écrivaine, une académicienne même, Danielle Salnave, faisait un très bel article consacré à Georges Navelle intitulé « Le miracle vient des mains ». Et elle écrivait ainsi pour Georges Navelle, « Comme peu d'écrivains ont pu l'éprouver aussi physiquement, l'écriture est exactement du même ordre que le travail manuel. » L'écriture est exactement du même ordre que le travail manuel. Et vous avez entendu la manière dont il décrivait la récolte des lavandes, c'est quasiment une manière qu'on pourrait avoir de décrire l'attention qu'on a envers le langage, la recherche du style pour le langage. Il y a quelque chose qui est vraiment un parallèle tout à fait saisissant. Alors, si je dois dire en quelques mots encore de Georges Navelle, il faut dire quand même son tropisme méditerranéen est quelque chose comme un engagement qui est un engagement très profond et une direction qui est une direction vers le sud. Même si il a circulé dans toute la France, à Paris longtemps, à Lyon, il y a quand même quelque chose qui est un appel du monde méditerranéen, du soleil méditerranéen, pour plusieurs raisons. D'abord parce que tout enfant, quand il avait 10 ans, son père l'a envoyé en Algérie au moment de la Première Guerre mondiale, et il garde de l'Algérie quelque chose comme des souvenirs qui sont des souvenirs éblouissants, et qui est presque le pays premier qu'il ne va pas cesser de chercher à travers les provinces ou les pays de nos territoires dans lesquels il va travailler, quelque chose comme des résurgences de cette Algérie première. Le deuxième point, c'est que Navelle va, en 1936, aller en Espagne. Il est en quelque sorte requis par la révolution espagnole, par la lutte contre le fascisme, et il va se tourner vers l'Espagne. Ce qui est pour Navelle quelque chose comme, je dirais, un engagement qui va contre ses propres convictions. Puisqu'au moment où Navelle devait faire son service militaire, il déserte. Il déserte et il passe des années à se cacher des autorités. C'est-à-dire qu'il a une sainte horreur de tout ce qui relève de l'armée, de tout ce qui relève du combat. Et pourtant, au moment de 1936, il décide d'aller en Espagne. Donc il y a quelque chose qui est quand même une tension, mais qui signifie aussi qu'il y a un appel révolutionnaire, un désir de défendre l'Espagne contre le fascisme, qui l'emporte sur ses convictions antimilitaristes. Alors, il déserte, je vous disais, il sera néanmoins mobilisé, c'est le volume qui vient de paraître dans la collection Plein Champ, il sera néanmoins mobilisé en 1939 dans la DCA. Il le raconte d'abord dans Parcours et puis dans le texte qui vient de paraître. Alors qu'il avait été déserteur pendant 6 ans, hein, donc 6 ans à échapper aux autorités, là, il est requis pour faire la drôle de guerre. Dans la postface du volume sur Conversation avec les soldats, il y a une très belle formule qui dit que imaginer Navelle soldat, c'est comme imaginer Rimbaud notaire. Voilà, je pense que ça dit bien la contradiction qu'il y a dans le fait que Navelle soit soldat. Alors, évidemment, au moment où il va être mobilisé pour la drôle de guerre, on va retrouver les caractéristiques qui sont les caractéristiques de Navelle, c'est-à-dire le refus de l'autorité, mais une ruse ironique envers elle, qu'on entendait dans le passage du chemin de fer. Un temps de l'ennui et de l'attente, mais aussi quelque chose qui va être le sentiment d'une fraternité, d'une collectivité avec les soldats, mais toujours quelqu'un qui est un homme à côté. Je vous disais qu'il y a une tension entre le collectif et l'individuel, alors qu'il trouve qu'il y a quand même certains goûts pour l'alcoolisme dans la caserne où il se trouve. Lui, il va faire des lectures ou il va faire des sculptures de glaise. Il va être l'homme à part, l'homme à côté de l'ensemble de la troupe. Et puis, il va être en quelque sorte celui qui va mobiliser ce temps de mobilisation pour la rêverie. Il y a des très très beaux passages, notamment dans un chapitre consacré à la lune et la mort, où on le voit en train de regarder à la lunette des DCA, la lune, et c'est un grand chapitre de rêverie, hein, comment on détourne la lunette militaire pour en faire une sorte de téléobjectif ou de télescope propice à la rêverie. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est une formule de Georges Navel dans Parcours, que reprend Sylvain Prudhomme dans sa préface. C'est le terme « la grande santé ». Les travaux que va faire Georges Navel sont des travaux particulièrement épuisants et éreintants. Il dit l'usure du corps que ça va être pour lui, mais il n'en demeure pas moins que le travail est pour lui une manière de se raccorder au rythme du monde. L'idée que par le travail, en quelque sorte, on rejoint le rythme des saisons, on rejoint aussi tout ce qu'il peut y avoir à la fois d'éveil dans la nature et puis de moments où la nature va au repos, et qu'il y a en quelque sorte une conformité ou une alliance entre le monde de la nature et le monde du travail. C'est presque ça qu'il va chercher dans le travail et dans le travail des champs. Alors cette formule, la grande santé, c'est une formule qu'on peut retrouver chez Nietzsche, hein, et Navel, grand lecteur de Nietzsche. Et dans une autre préface, il y a une autre expression qui est employée pour décrire Navel, c'est la vie aux aguets, c'est-à-dire une capacité qu'a Navel d'être toujours attentif aux détails, attentif aux sensations, et malgré la dureté du monde du travail. Alors pour essayer d'illustrer ça, je voudrais lire un moment, c'est la cueillette des cerises, c'est toujours dans le travaux, pour dire ce rapport saisonnier au travail. Pourquoi vient-on à la récolte ? Ça paie peu aux cerises. Fidélité à la saison. C'est un rendez-vous avec d'anciens bonheurs. Une odeur de foin, la lumière de mai et des songeries. Je connaissais un vieux boulanger qui, depuis 25 ans, toutes les années, lâchait le pétrin pour arriver là, en fin avril. On revient changer, le cuir s'endurcit, on ne s'aime plus, on communique moins avec la saison. Puis, on est à nouveau touché de fraîcheur, atteint par la grâce. Une année, j'étais revenu pour une odeur de genêt ou pour avoir vu dans un chemin un paysan sous un grand parapluie bleu, un matin de petite pluie de mai. On ne sait pas pourquoi on revient. Manger des cerises, se crever moins que sur un chantier, ça aussi. On vient compter ces années-là pour que l'année compte, pour avoir vécu un printemps de plus, s'être senti sur terre au retour de mai. C'est une fête que le saisonnier se donne. Il recueille le printemps un bon mois. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose comme, même si c'est un écrivain du corps, de ses épreuves, c'est aussi un écrivain des triomphes du corps, des moments d'une sorte de grand accord du corps avec le monde qui l'entoure. Sylvain Prudhomme en parle de moments de coïncidence avec le monde. Il y a quelque chose qui est même quelque chose que Navel va rechercher, des moments où on s'oublie dans le travail et dans ce rapport de coïncidence avec le monde. Ces moments où on n'est plus soi-même, on n'est plus l'individu avec ses petits tracas, avec sa famille, avec ses peines, et on est véritablement dans des moments d'accord. Sylvain Prudhomme parle même d'harmonie avec le monde. Je voudrais citer encore un tout petit passage de Navel, qui est cité par Sylvain Prudhomme. C'est un peu la suite de ce que citait Thaïs tout à l'heure. La fatigue m'avait drogué de substances joyeuses, opiacé le sang. Au repos, j'étais bête heureuse, à chaque mouvement, conscient de vivre. Conscient de vivre. Et un peu plus loin, je quittais mes espadrilles, j'avançais pieds nus pour sentir le sol, la terre brûlante, en marchant légèrement, en dénicheur d'oiseaux, comme pour surprendre l'invisible. C'était ma plus haute joie de la journée. Dans leur désordre, les choses semblaient chargées de secrètes significations, attendre depuis l'éternité, baignées de silence et du mystère originel. Fermant les yeux, je m'y mêlais. La chaleur grésillait sur mon torse nu. J'étais torche solaire.
Un voile.
Alors il y a, Sylvain Proudhon nous dit, quelque chose qui est un petit peu à la Gide, c'est les nourritures terrestres de Gide, hein, qui ont leur dimension nietzschéenne, vraiment de fusion avec l'énergie, avec la vitalité de la nature, avec ce que ça peut avoir de pleinement incandescent. Mais c'est pas seulement Gide, je dirais que c'est aussi un côté Bouvier, Nicolas Bouvier. Alors Nicolas Bouvier, vous savez, c'est l'écrivain voyageur, hein, qui va jusqu'au Japon, d'abord en Fiat Topolino, avec son ami photographe. Et puis, mais Nicolas Bouvier, c'est un grand érudit qui vient d'une grande famille bourgeoise. Là, on a plutôt un Nicolas Bouvier qui est un Nicolas Bouvier populaire, mais avec la même idée, vraiment le même souci, qui est en quelque sorte de passer d'une connaissance qui est une connaissance livresque, une connaissance du monde par la bibliothèque, avec une connaissance, c'est une formule de Nicolas Bouvier, par la plante des pieds. Connaître le monde, mais par la plante des pieds. Et cette formule-là, on la retrouve quasiment telle qu'elle chez Georges Navelle. Dans Parcours, cette fois-ci, c'est assez rapide. Il est rentré à Lyon. J'avais passé l'hiver aux usines Berliet. Sauf quelques heureux moments, l'année s'était passée tristement. Forcément, c'est Lyon, forcément, c'est les usines. Le cafard de l'amour, mêlé à celui de la grande industrie, la tentation du suicide m'avait souvent travaillé. L'entrain me revint avec les premiers beaux jours. Je rêvais de devenir fort, de porter un cuir de cœur que l'amour n'entaillerait plus, de faire tous les métiers, d'apprendre la géographie avec les semelles, d'aller dans tous les pays. J'avais trop lu, je voulus juger par expérience directe. J'irai en Russie, en Amérique, l'homme qui voyage devient philosophe. Pour me faire une large poitrine, de bons bras nécessaires à un chauffeur de soute, un docker, gagner ma vie plus aisément, là où j'irai plus tard, je songeais à devenir terrassier en passant d'abord par l'entraînement des travaux agricoles. Le bon soleil m'avait réveillé à l'optimisme en changeant mon état d'imagination. Même sans but autre que la curiosité et l'épanouissement individuel, la vie me semblait valoir la peine d'être vécue. Donc vous voyez, hein, le mouvement entre l'usine et le soleil, hein, qui est un mouvement vraiment de balancier perpétuel chez Navelle. Et puis, peut-être le dernier passage que je voudrais lire, c'est cette fois-ci sur la récolte des pêches, c'est toujours dans Parcours, pour dire ce moment qui est ce moment d'oubli à l'intérieur du travail. Le terrain était sablonneux, la marche y était moins fatigante que là où les labours laissent de grosses mottes. Nous étions torse et pieds nus. Mon copain portait une serviette enroulée autour de la tête à la mode des arbis. Une plantation de pêchers, c'est une sorte d'oasis. Vous voyez, hein, c'était ce pays premier qui revient. Dans la lumière violente, on peut se croire sous les dattiers du Sahara ou même coupeur de canne à sucre au Mexique, dans un verger de la Martinique ou de Tahiti. La terre gorgée de lumière, vibrante, palpitante dans les effluves de chaleur, semble vivre autant que les feuilles des pêchers ou des vignes. À mesure que le soleil monte dans un ciel absolument pur, le tam-tam des cigales devient de plus en plus délirant, assourdissant. Dans le remous d'ombre et de lumière, la silhouette humaine s'accorde extraordinairement au décor. La silhouette humaine s'accorde extraordinairement au décor. Hein, l'idée d'une sorte d'harmonie entre le geste du travail et l'embrasement de la nature autour. Dans le remous d'ombre et de lumière, la silhouette humaine s'accorde. Absente, elle manquerait. Dos cuivré de cueilleurs au soleil ou tatoué d'ombre de feuillage, pantalon bleu décoloré dans l'azur à terre, tout est pleinement beau, beau comme le temps de l'été du magicien. Dans la peau qu'on occupe, pardon, il semble qu'on s'habite aussi fragilement que l'ombre qu'on promène d'arbre en arbre. On est dissous, on ne connaît plus ses frontières, on se confond avec la lumière et la chaleur. Deux rangées d'arbres sont comme une île loin de tout. On est loin des affaires du monde. La parole est de peu. Elle n'agite que la surface de l'âme. Les sensations sont plus puissantes que la pensée. En cueillant, on cause, on communique mal. Le passé s'absente. On est là entièrement. Le soleil qui dévore la peau la rend rayonnante. On est clarté dans soi-même, heureux. Mais il semble vain d'être un homme. Voilà. On arrête là, peut-être.
Ah non, en conclusion, il faut lire la dernière phrase de travaux. Là.
Oui, allez, on y va pour la fin de travaux. Même plus que la dernière phrase, ça s'appelle « Retour à l'usine » pour dire le principe d'espérance qui est à l'œuvre dans l'écriture de Navel. 8 heures d'usine suffisent pour absorber l'énergie d'un homme. Ce qu'il donne au travail, c'est sa vie, la fraîcheur de ses forces. Ce n'est pas seulement son temps. Même s'il n'a pas été malheureux en travaillant, s'il n'a pas pâti d'ennui ou d'un excès de peine, il sort usé, infirme, incomplet. L'imagination tarie. Le cinéma seul peut encore lui donner l'animation que la vie intérieure lui refuse sur la fatigue. Je n'étais plus l'heureux animal que j'avais pu être dans le midi au plein air. Je gagnais mieux ma vie à Paris qu'ailleurs. Gagner sa vie, c'est important. La semaine de 40 heures obtenue grâce à l'union syndicale avait rendu la condition ouvrière plus supportable. Malgré les menaces de guerre, l'alerte des mobilisations répétées, Paris, depuis 1936, faisait plus d'enfants. Les ouvriers avaient confiance dans l'avenir. Le monde ne serait pas toujours absurde. La jeunesse des usines, plus belle qu'autrefois, plus intelligente, plus vivante, se délivrerait de la déchéance physique du travail claustré dans les jeux de plein air, le camping, grâce aux 40 heures. Malgré la fatigue des fins de journée, l'usine me semblait appartenir déjà à un monde neuf, à un monde plus gai. L'usine, un jour, serait à nous. Nous ne travaillerons plus pour la guerre. Je me sentais lié aux hommes qui m'entouraient par une communauté d'espoir. Ils étaient sortis de leur indifférence, de leur passivité. Comme jamais, je me sentais enfin avec des semblables, des ouvriers devenus conscients. Il y a une tristesse ouvrière dont on ne guérit que par la participation politique. Moralement, j'étais d'accord avec ma classe. Merci.